Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. C'était il y a un mois exactement, le 4 août. Deux explosions d'une terrible violence détruisaient le port de Beyrouth et ses alentours, faisant de très nombreuses victimes. Un choc pour le Liban, comme on l'a entendu sur les antennes de RFI.
C'est un triste jour. Beyrouth est touché en plein cœur. Beyrouth est en deuil et c'est tout le Liban qui fait face à la catastrophe.
J'ai cru que c'était un tremblement de terre et comme j'habite au 5e, j'ai cru que l'immeuble allait s'écrouler, donc je suis descendue en courant. Mais en fait, c'était le souffle de l'explosion.
Une très grosse explosion s'est produite. Nous étions présents ici. Même pendant la guerre, on n'a pas vécu une chose comme ça.
Des images d'apocalypse à Beyrouth, la poussière, les ruines, les immeubles éventrés, des quartiers dévastés. La capitale libanaise est sinistrée et ses habitants choqués, c'est peu de le dire. La double explosion qui a soufflé le port de Beyrouth plonge tout le pays dans un état de sidération. Les images captées par les téléphones portables sont proprement incroyables.
Et après le choc, les réactions, car ce mortel accident au Liban a connu un retentissement international et touché directement les écrivains libanais, installés dans le monde entier et en France en particulier. Parmi ceux-là, le romancier et photographe Sabil Goussoub, né à Paris dans une famille libanaise. Entre ses allers-retours d'un pays à l'autre, où il a été d'une part directeur du Festival du film libanais et d'autre part commissaire de l'exposition parisienne C'est Beyrouth, Sabil Goussoub est aussi auteur et vient de publier Beyrouth, entre parenthèses, aux éditions de l'Antilope, dont nous allons parler avec lui dans quelques instants. Mais aujourd'hui, Beyrouth est au centre, en souffrance, comme l'ont constaté nos confrères de RFI Julien Boileau et Pierre Olivier sur place.
Une semaine après la catastrophe, les cicatrices sont toujours à vif.
Aujourd'hui, j'ai très peur. Quand je sors, je fais le signe de la croix.
Pour toutes les générations, ce mardi 4 août 2020 restera gravé comme une journée noire. Emil Aoun, 20 ans, a du mal à trouver le sommeil.
C'est difficile de dormir quand tu repenses à tous ces gens qui ont du sang tout autour de leur tête. C'est pas facile.
Même une semaine après ?
Même une semaine après, même quand j'aurai des enfants, les enfants de mes enfants, je vais toujours leur rappeler de ce qu'il s'est passé. C'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier.
Au désespoir d'avoir perdu un être cher s'ajoute aussi l'hébétement de retrouver la capitale du Liban mutilée, comme lorsque l'on demande à cette femme si elle est triste.
Oui, bien sûr, pour Beyrouth, pour Achrafieh, surtout j'aime ce quartier, il a un cachet spécial, surtout la zone qui a été touchée par l'explosion. Je ne suis pas la seule à être triste, tout le monde l'est. Je suis triste pour les gens qui sont morts, mais aussi pour Beyrouth. Je suis triste pour ces pierres.
Et comme si un malheur ne suffisait pas, en plus de faire de nombreuses victimes, l'explosion a détruit l'un des quartiers historiques de la ville. Des blessures au corps et au cœur que seul le temps pourra peut-être un jour apaiser. Pierre-Olivier, Julien Boileau, Beyrouth, RFI.
Les Beyrouth, min qalbi salamun les Beyrouth, wa qubalun lil bahr wal buyut, li safratin ka'annaha.
Bonjour Sabil Goussoub.
Bonjour.
En cette rentrée littéraire où vous publiez votre nouveau roman, paru sous le titre Beyrouth entre parenthèses aux éditions de l'Antilope, la première question que j'aurais dû vous poser aurait dû être strictement littéraire, mais pourtant l'actualité nous a rattrapés. Et de fait, je ne peux pas ne pas commencer par vous demander, vous le Libanais français ou le Français et Libanais que vous êtes, quelle a été votre réaction le 4 août dernier en apprenant les terribles explosions qui ont détruit le port de Beyrouth et ses alentours?
J'étais dévasté, j'étais avec ma compagne, c'est notre premier jour de vacances, elle aussi est libanaise, elle est née à Beyrouth, elle a grandi à Beyrouth. Et c'est vrai qu'on a passé après trois semaines, voire jusqu'à maintenant, c'est assez monstrueux en fait. Souvent elle pleure, moi aussi. On a annulé nos vacances, on est parti à Beyrouth. Beaucoup de nos amis sont blessés, ses parents ont perdu leur clinique, nous la maison a été cassée. Disons qu'on est assez dévastés, désespérés. On a dû passer le pire mois d'août de notre vie pour l'instant. Et on pensait pourtant, les Libanais, qu'on avait déjà vécu pas mal de drames en été. Mais apparemment, c'est tragique, ça s'arrête jamais.
Donc dévasté comme la ville, comme le pays, mais néanmoins vous avez senti la nécessité d'y aller tout de suite. Pourquoi ?
Alors, quelqu'un m'a demandé si c'était une envie, et en fait, je crois que c'est pas une envie. Oui, c'est effectivement une nécessité. On se sent obligé. Je sais pas si c'est de la culpabilité ou faut qu'on y soit ou qu'on soit avec nos proches là-bas. Mais il y a un besoin d'y être, et même si quand on y est, finalement, on fait pas grand chose de très utile. Le fait d'être proche des gens, peut-être de les écouter, on a la chance d'être ailleurs, de vivre ailleurs, de pas avoir les mêmes problèmes qu'eux. C'est vrai que le pays connaît une crise économique monstrueuse depuis des mois. Et ajouté à la crise sanitaire que connaît le monde, plus l'explosion, c'est vrai que là, en termes de drame, on fait pas mieux. Donc, on a ressenti le besoin d'y aller. Beaucoup d'écouter beaucoup de gens désespérés. Et moi, ce qui m'a le plus attristé et choqué, c'est que généralement, à Beyrouth, quoi qu'il se passe, les gens de mon âge, de ma génération, ceux qui ont la trentaine, sont toujours pleins de vie. Bon, il y a un attentat, le lendemain, on continue à vivre, etc. Là, c'est la première fois que je vois mes amis, mes collègues complètement désespérés, dévastés, qui ont perdu tout espoir, en fait, en l'avenir.
Ces crises que vous venez de citer, auxquelles s'ajoute une crise politique majeure au Liban, Sabil Ghossoub, dans quel état d'esprit vous les avez trouvés, ces Libanais ? Résignés ou justement prêts à en découdre ?
Il y a eu 3-4 jours de colère juste après l'explosion. Moi, j'y étais pas encore, mais on les a vus et on me les a racontés. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où je suis arrivé 10 jours après jusqu'à aujourd'hui, je pense que là, il y a plus de désespoir que de colère. En fait, les gens ne savent plus quoi faire. On sait plus comment sortir de cette classe politique qui dirige le pays depuis plus de 30 ans. Certains ont fait la guerre civile, sont les principaux protagonistes de la guerre civile. C'est vrai que les gens de ma génération, là, on est vraiment perdus. Je disais tout à l'heure à une amie que généralement, même quand les gens de 30 ans vont pas bien, ils vont chez leurs parents et leurs parents leur remontent le moral. Finalement, c'est un support. Mais là, nos parents, ils ont vécu tellement de drames avec le Liban qu'ils sont au bout. Je pense quand on a 68 ans, 70 ans, 72 ans et qu'on est à deux doigts de la retraite et qu'on a cette explosion qui nous est revenue et qu'on a l'argent qui a été volé, qu'on a mis de côté toute notre vie, on sait plus où chercher, où trouver de la force, en fait. Et malheureusement, je lancerai mon petit pic, mais c'est pas l'avenue d'Emmanuel Macron qui va donner la force aux Libanais de s'en sortir. Là, j'avoue qu'on est dans une impasse et je sais pas du tout comment on va faire. Je sais pas ce qui va se passer dans les quelques mois et pas grand analyste nous donne une analyse possible des plusieurs semaines à venir, là, en tout cas.
De cette réalité à la fiction, pour autant d'ailleurs que la littérature ne soit pas non plus le reflet de la réalité en permanence sous une autre forme, évidemment, avec ce nouveau roman, donc Sabil Ghossoub. Et on parlait de crise, et votre personnage aussi est en crise, un homme qui vous ressemble comme deux gouttes d'eau, si je peux me permettre, et qui décide contre l'avis de sa famille, contre l'avis général d'ailleurs, et peut-être contre la raison tout simplement, d'aller en Israël, considéré comme une terre ennemie. Vous aussi, vous l'avez fait ce voyage, Sabil Ghossoub ?
Oui, je l'ai fait ce voyage. Je me suis souvent posé la question de le dire ou non. J'avais très peur de le dire. J'ai même eu peur de sortir ce livre le 17 octobre, quand la révolution du Liban en 2019 a commencé. J'étais allé au Liban, j'avais écrit un récit dessus pour un quotidien francophone libanais. Et quand j'étais rentré, le livre devait sortir deux mois après. Et j'ai pris peur et j'avais dit à mes éditeurs, on le sort plus.
Pourquoi ?
C'est-à-dire qu'on est arrivé à un moment, on savait pas ce qui allait se passer au Liban, je savais pas de quel bord, enfin le Liban allait tomber, enfin je savais pas ce qui allait se passer, je sais pas si le Hezbollah allait prendre le pouvoir, on savait rien, et j'ai eu peur pour ma famille là-bas. En fait, je me suis dit, si ce livre sort à un moment où le pays bascule d'un côté ou de l'autre, je veux pas qu'il arrive quelque chose à ma petite cousine, elle y est pour rien dans ce voyage, dans cette histoire.
Parce que vous auriez été considéré comme traître?
Ah oui, c'est de la haute trahison, ça. En tout cas, dans le droit libanais, ça peut être jugé comme haute trahison de voyager en Israël, de communiquer avec un Israélien. Donc, mais après, c'est toujours très vague. C'est quand ça les arrange. Il n'y a pas une loi dictée qui est claire et nette. C'est selon la personne, selon les enjeux politiques. Maintenant, je pense qu'une personne comme moi, maintenant, qui n'aspire pas à faire de la politique au Liban, est beaucoup moins dangereuse que quelqu'un qui fait ce voyage et qui derrière a tout un discours politique. Donc, je pense que maintenant, j'ai aussi moins peur de le dire parce que je sais aussi où je vais à peu près. Mais c'est vrai qu'à l'époque, donc, j'avais pris peur et finalement, il m'a fallu 2-3 mois pour reprendre un peu le texte et revenir dire à mes éditeurs, finalement, on y va. Et j'ai dit, on y va pour une raison assez simple. Je crois que la révolution du 17 octobre, pour l'instant, n'a pas porté ses fruits, clairement, au pays, dans le pays. Mais disons que je crois qu'elle a libéré une parole. Il s'est avéré que pendant les quelques mois d'après, j'ai senti que les gens de ma génération osaient dire des choses qu'on n'osait pas dire aux plus grands, que les femmes ont dit des choses aux hommes, que les chiites disaient des choses au Hezbollah, que les chrétiens disaient des choses à ceux qui les gouvernaient, et qu'en fait, maintenant, on ose dire des choses au Liban qu'on n'osait pas dire avant. Et du fait de cette parole libérée, je crois que mon livre en fait partie, c'est-à-dire que je suis en train, avec ce livre, de dire ok, pourquoi pas résister contre Israël, mais peut-être résister autrement que par les armes. Ça fait plus de 50 ans qu'on est en guerre avec Israël, et que finalement ça n'apporte rien, la Palestine n'est pas libérée, les Palestiniens n'ont pas un État, ils sont toujours chez nous réfugiés au Liban, nous on est encore en guerre, en 2006 on était en guerre avec les Israéliens, on a encore peur d'une guerre aujourd'hui avec les Israéliens, et j'ai pas l'impression que ça nous fait avancer dans l'histoire. Donc voilà, ce livre est une toute petite brèche, un presque rien de peut-être essayons de penser autrement maintenant le pays et la région.
Pour revenir à la raison motrice qui peut-être a déclenché aussi ce voyage, votre personnage, quand on lui pose la question « Mais pourquoi est-ce que tu vas là-bas ?» dit « Pour combler des vides ». De quel vide il s'agit ? Est-ce qu'il y a toujours un tabou au Liban autour de ces relations entre les deux pays ?
Oui, alors en fait, je pense qu'il y va aussi, ne sachant pas pourquoi il y va. Et je crois qu'il espère trouver une réponse en allant là-bas. D'ailleurs, à la fin du livre, je pense qu'il ne trouve même pas de réponse, et c'est très bien. Sur les vides, oui, c'est au-delà de ça. Je crois que dans le bouquin, quand je parle du vide, c'est le vide de la mémoire au Liban. En fait, il part précisément de son oncle, le personnage qui a fait la guerre du Liban et qui ne lui a jamais rien raconté. Et c'est vrai que cette absence d'histoire, en fait. Plein de gens qui sont nés comme moi dans les années 88, c'est-à-dire à la fin de la guerre civile et qui l'ont pas vécu, on a posé énormément de questions à nos oncles, à nos parents, selon qui a vécu la guerre, en fait. Et rarement on nous répond. On sait rien. Alors nous, on sait un peu plus parce qu'on a lu, il y a eu des historiens qui ont écrit sur la guerre du Liban parce qu'il n'y a pas d'histoire officielle de la guerre du Liban. Donc on sait des choses, mais c'est vrai que de nos propres familles, en général, on sait pas ce qu'ils ont fait. Alors pourquoi ils le racontent pas? Peut-être pour se protéger eux-mêmes. Le problème, c'est qu'il est difficile de construire un pays sans savoir, sans au moins s'accorder sur un minimum d'histoire en commun sur 15 ans de guerre.
Donc quand on n'a pas les réponses ici, on va peut-être les chercher ailleurs. Et une question, pourquoi Beyrouth entre parenthèses et pas le Liban entre parenthèses? Quelle est la différence?
Question piège.
Non.
Non, mais c'est une bonne question parce qu'il faudrait que je... Déjà, pour une raison très simple, je trouve que Beyrouth sonne mieux que le Liban. En tout cas, dans ce titre-là, je trouvais qu'il sonnait mieux. Après, pourquoi Beyrouth? Parce que, disons que le Liban dans lequel j'ai évolué, moi, quand je suis allé au Liban, qui est aussi un peu celui du narrateur, c'est Beyrouth. C'est-à-dire que ce Beyrouth-là est assez multiculturel. On se pose pas de la question de... Disons que c'est le fantasme que j'ai de Beyrouth. C'est l'idée que j'ai de Beyrouth, d'une ville très cosmopolite, plutôt très intelligente, qui est plutôt même avant-gardiste dans le monde arabe. Et finalement, en allant là-bas, c'est ce Beyrouth aussi que je mets entre parenthèses. C'est un Beyrouth qui m'a emmené de l'avant, et c'est un Beyrouth qui finalement m'a emmené à faire ce voyage.
Et donc, dans un style qui vous est propre, Sabil Goussoub, à savoir un art du décalage et du décadrage, on se souvient de votre premier roman, Le nez juif, qui déjà posait la question de l'identité derrière les apparences. Là, vous racontez donc ce périple transgressif, dont la plus grande partie est un interrogatoire à l'aéroport Ben Gourion à Tel Aviv, où l'on ne cesse de vous questionner sur votre identité précisément. Et on a l'impression que dans cette situation de tension, votre appartenance au Liban s'est révélée plus que jamais. Est-ce que c'est le cas? En d'autres termes, est-ce que vous vous êtes découvert profondément libanais en Israël?
C'est vrai que ce voyage, c'était une manière de fuir le Liban aussi, d'une certaine façon. Et c'est vrai qu'en y allant... Alors là, je vais mélanger forcément mon histoire et celle du personnage, mais faudrait que je réponde aux deux, parce que le personnage, en fait, découvre petit à petit et est rattrapé par sa libanité, en fait, au fur et à mesure du voyage. Et à la fin, il le redevient pleinement. Et de mon côté, je pense qu'une fois que j'ai fait ce voyage, je suis devenu libanais comme je voulais l'être. C'est-à-dire en étant totalement libéré du carcan confessionnel, politique, familial dans lequel qu'on m'a donné en héritage, on va dire, d'une certaine façon. Et en faisant ce voyage, finalement, j'ouvrais ma libanité ailleurs. Elle s'arrêtait plus à des frontières précises, mais elle pouvait être ce qu'elle voulait être. Et finalement, c'est cette libanité-là qui me plaît en général.
Et durant ce long interrogatoire où se succèdent plusieurs soldats israéliens...
Et soldates,
hommes et femmes, c'est ce que j'allais préciser, et décortiquer le contenu de l'appareil photo du narrateur, photographe, comme vous, avec des séries de photos totalement authentiques, puisqu'elles sont reproduites dans le livre, à savoir 48 clichés de personnes assises, dont on ne voit pas le visage puisqu'il est recouvert d'un keffieh, le foulard palestinien. Qui a fait ces photos ?
Je pourrais pas dire mon personnage, c'est moi. Donc c'est moi et mon personnage, oui, et ça c'est quelque chose de véridique. Pour le coup, ils m'ont vraiment, quand j'y étais, ils m'ont vraiment jeté mes photos au visage et ils me demandaient pourquoi je les avais prises. Comme c'était des photos qui avaient l'air plutôt engagées, ou en tout cas il y avait forcément un discours politique derrière, ils voulaient comprendre pourquoi et comment j'avais pris ces images, qu'est-ce que je cherchais à dire et à montrer avec ces images. Pour moi c'était un beau prétexte dans le bouquin, parce que finalement, sur l'évolution de ma photo, là c'est plutôt en tant que photographe que je parle, disons que toutes mes premières images ont été des photos de personnes ou de dos ou voilées ou encagoulées. Et le dernier projet que j'ai fini, c'est un projet de famille qui est sur le village de ma mère, où finalement pratiquement tout le monde est dénudé. On voit enfin toute ma famille à visage découvert. Donc là, si vous rentrez sur mon site internet, vous verrez ma mère, mon oncle, mes cousins, mon frère, enfin voilà, tout le monde ouvertement. Et donc finalement, l'histoire de ce voyage et l'histoire de la photographie, c'est ça. C'est une personne qui se voile, qui se cache derrière plein de principes, d'idéaux, de choses qu'il renferme, et qui petit à petit, grâce à ce voyage, finalement se libère et sa photographie se libère avec lui.
Et quel était le symbole de cette série ?
L'étouffement. L'étouffement, c'était, j'avais pris comme concept, on va dire, le jeu du foulard. C'était ce jeu là où les enfants se passaient le foulard de l'un à l'autre et ils essayaient de s'étrangler et de s'étouffer jusqu'au moment où certains finissaient par mourir. Et c'était un rite initiatique. Et j'avais bien aimé l'idée du rite initiatique, c'est-à-dire qu'en fait, des grands-parents aux parents, des parents aux enfants, on se transmet en fait l'obligation de, un, défendre la Palestine coûte que coûte, et deux, de garder la famille soudée. Et finalement, à travers ce voyage-là, disons qu'il y avait une transgression des deux. Finalement, c'était comme un abandon de la Palestine, alors que ça ne l'est pas. Enfin, de mon avis, ça ne l'est pas. De faire ce voyage, c'est pas abandonner la Palestine. Et finalement, c'est trahir la famille libanaise de voyager là-bas.
Mais est-ce qu'il y avait cet engagement pour la Palestine aussi inséré dans ce voyage pour votre narrateur et pour vous, Sabil Ghossoub?
Oui, ça l'est toujours indirectement. Mais c'est au-delà de, ouais, c'est un engagement humain. Là, c'est pour la Palestine, ça pourrait être pour un autre conflit, mais c'est vrai que forcément, quand je vais là-bas, j'y vais pas pour... Alors, il se retrouve que le personnage, il va pour danser, il finit par danser, à s'y plaire à un moment et s'en veut de s'y plaire. Mais c'est vrai que quand il va pour... Il va pour quoi ? Il va pour combler un vide politique, en fait, combler un vide d'avenir qu'on nous promet, c'est-à-dire qu'il trouve plus aucun discours politique qui lui plaît dans la région, plus aucun discours qui arrive à le convaincre d'une future paix. C'est presque vulgaire le mot paix, mais en allant là-bas, il se dit qu'il y a peut-être l'espoir de quelque chose. Alors il sait pas ce que c'est, il sait lui-même qu'il fera pas de politique, mais il a envie de s'accrocher à un espoir et il se dit que peut-être là-bas il va le trouver, et d'une certaine façon il le trouve là-bas, l'espoir. D'ailleurs chez des personnages très différents en Israël, autant chez un soldat d'origine libanaise qui a fait la guerre du Liban, qui finalement s'effondre et c'est une œuvre d'un artiste israélien, que chez la jeunesse israélienne qui refuse de faire l'armée et qui se sent finalement très proche de Libanais, de Palestiniens qui défendent au fond les mêmes idées de liberté.
Est-ce qu'il y a une forme de provocation aussi dans ce livre pour vous, Sabil Ghossoub, à la fois dans les dialogues qui sont très tendus entre votre narrateur et les soldats et soldates? Il y a quand même des échanges assez insolents de la part de l'un et l'autre avec la publication de cette série de photos. Est-ce qu'il y a une forme de provocation ou pas?
J'ai peut-être tiré à la provocation, je sais pas, je crois que c'est surtout quand j'écris, je pense que c'est ces phrases-là qui restent à la fin. C'est ces phrases plutôt provocatrices qui sont percutantes, on va dire. Le voyage n'est pas une provocation, enfin pour moi ce n'est pas une provocation, même s'il peut être vu comme une provocation. Après, sur le livre, oui, forcément il est provocateur, mais c'est peut-être parce que je cherche pas forcément à faire ça, quand j'écris le livre, je me dis j'ai envie de lire ce livre, et quand je me dis j'ai envie de lire ce livre, j'ai envie qu'il me bouleverse moi-même en l'écrivant. Donc en fait, je vais aller petit à petit à l'essentiel. Et on arrive vite à des choses peut-être provocatrices, mais qui sont, disons, que comme si chaque phrase devait être une sorte de petit coup de poing, petit percute, comme si on devait se remettre presque en question, parce que je vais peut-être trop loin dans les questions, dans les échanges, quand on lit le livre. Je sais pas, oui, c'est peut-être une provocation.
Je pense particulièrement à cette scène où le narrateur sort sa raquette de tennis et tape quelques balles contre le mur à Jérusalem.
Oui, ça c'est moins une provocation comme si... Qu'un petit jeu, ça je l'ai même piqué à un artiste palestinien qui l'a fait dans une petite vidéo. Il joue face au mur avec sa raquette de tennis. Mais ça, c'était même un petit clin d'œil au premier livre que j'avais écrit, où justement le personnage faisait ça, mais de l'autre côté, du côté de la frontière du Liban. Ça, c'est, oui, c'est une très douce provocation, ça.
Sachant que vous êtes publié chez un éditeur, l'Antilope, dont le catalogue est constitué d'auteurs juifs, sauf vous.
Non, je crois qu'il y en a un autre. Enfin bon, on va pas les compter. Ça me semble...
Là encore, vous avez cherché à être minoritaire dans une majorité.
Alors ça, c'est une longue histoire. Je devais le publier au Liban, ça s'est pas fait parce qu'ils ont pris peur. Et au tout départ, avec un éditeur français, ça n'avait finalement pas marché. Et par provocation, je le dis clairement, et parce que j'avais aimé leur premier livre qui s'appelait « Comme deux sœurs » de Rachel Chalita, j'avais envoyé mon premier livre donc à l'Antilope, qui m'avait répondu et ça avait marché. Et c'est vrai que il y a un petit amusement de me retrouver, moi, le petit Libanais, au milieu des auteurs juifs et israéliens dans leur catalogue. Oui, c'est une provocation, et en même temps je me dis que c'est pas mal si dans tous les sens ça pouvait être comme ça, s'il pouvait y avoir ces espèces de... si on pouvait s'intégrer comme ça dans chacune des communautés, comme ça on décloisonne un peu les communautés, c'est pas mal.
Encore un mot avant de nous quitter pour parler de cette œuvre photographique qui est importante et dont ici votre narrateur semble faire l'autocritique de son travail. Je me demandais pourquoi. Comme si, à un moment, l'image devenait impuissante, à l'image de ce qu'il dit sur ce qu'il voit à Tel Aviv ou à Jérusalem, qui sont des décors extraordinaires pour un photographe, où lui, finalement, ne va prendre en photo que des objets plutôt insignifiants, comme des panneaux de signalisation, ou des objets qui n'ont pas de singularité propre.
Et disons qu'il est arrivé à la limite de sa photographie, c'est-à-dire quand il arrive là-bas, enfin, je crois que qu'une des façons même d'écrire ou de faire de la photographie, on se demande comment on va ou photographier ou raconter une histoire différemment. Et je crois qu'il est arrivé à une impasse de son travail, c'est-à-dire que quand il arrive là-bas, il a tellement vu de choses sur le conflit, tellement d'images, tellement de vidéos, tellement de documentaires, qu'il se dit que son regard, en tout cas photographique, ne va rien apporter de nouveau. Et donc il laisse tomber pour finalement vivre et au fond finalement raconter cette histoire après à l'écrit.
Où en êtes-vous, vous, de cette réflexion? Vous qui avez été d'ailleurs récemment aussi le commissaire d'une grande exposition Beyrouth, qui avait eu beaucoup de succès, qui l'a aussi montré des clichés en décalage et en décadrage de ce qu'on pouvait attendre du pays. Où en êtes-vous, vous, de cette réflexion sur votre travail de photographe et sur votre travail d'écrivain?
C'est un travail constant. Disons que l'autocritique dont vous parlez, c'est quelque chose que je m'inflige au quotidien. Et je pense que je pourrais vous faire la critique de livre qu'on est en train de chroniquer maintenant et de vous dire en quoi il est pas bien du tout.
Ah ben je vous écoute.
Non. Je vais pas tenir les ficelles. Sûrement, peut-être quand j'aurai plus rien à écrire, je reviendrai sur pourquoi j'ai raté mes livres. Mais ça fait partie du travail de l'artiste d'être autocritique et de se remettre tout le temps en question. Si j'arriverais devant vous et je vous disais, vous savez, mes photos elles sont parfaites et mes bouquins, j'ai atteint la perfection, autant que j'arrête mon métier, je pense.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce Liban avec qui vous entretenez cette relation ambivalente, sans doute parce que vous n'y êtes pas né non plus et que vos parents enfants ont fui ce pays à cause de la guerre. Vous avez donc cette relation entre parenthèses avec ce pays que vous mettez de côté le temps d'un livre, et en même temps avec cette actualité aussi, il revient de force au milieu de notre vie. Est-ce que vous avez l'impression que ça va changer quelque chose dans votre écriture à venir?
Dans mon écriture, déjà dans ma vie, je sais pas. Pour vous dire la vérité, il y a quelques jours, quand j'étais encore au Liban, ma mère était aussi au Liban, et donc je lui ai écrit un message à 5h du matin. Je lui ai dit « Maman, je déteste tous les gens ici, mais je ne veux plus jamais revenir en France ». Bon, finalement, je suis revenu en France, donc comme quoi je me contredis très rapidement 4 jours plus tard. Et maintenant, je sais plus si je veux y retourner, je sais pas si je veux y vivre pour écrire sur là-bas, je sais pas si le prochain livre doit parler du Liban, mais je crois que forcément ça va en être. J'aimerais bien écrire sur autre chose, ça c'est une vraie réalité, mais j'arrive pas à m'en sortir pour l'instant. Et malheureusement, j'ai pas d'exemple d'écrivain plus âgé que moi, libanais, ou même de la région, qui en général a réussi à se dépêtrer de ce sujet. Je pense à Wajdi Marwa, Amin Marlouf, qui semblaient des gens très libérés de ces sujets et qui avaient une grande distance par rapport au Liban. Et finalement, on est tous rattrapés par ça. Donc c'est peut-être tragiquement impossible de parler d'autre chose. J'espère que non.
À voir.
À voir.
À suivre. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Savile Gossoub, je rappelle le titre de ce deuxième roman, Beyrouth, entre parenthèses, par aux éditions de L'Antilope.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site RFI.fr en cliquant sur l'onglet Podcast. Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.